un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Bonjour, auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades. Nous recevons aujourd'hui au micro de Radio Libre en Périgord, dans le cadre de la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée, Régis Parère, qui est l'un des responsables de la Libre Pensée de la Creuse et qui est surtout l'organisateur du rassemblement de Gensoux depuis de très nombreuses années. Alors, Régis, bonjour.
Bonjour.
Nous allons donc avoir cet entretien qui va durer environ 25 minutes, puisque à la fin, il y aura donc le choix musical que tu as retenu pour illustrer cette chronique. Et je vais te demander, donc, comme première question tout à fait originale, n'est-ce pas, de te présenter, hein, de compléter les quelques éléments que j'ai donnés à ton sujet.
Comme tu l'as dit, donc, je suis un militant creusois. Je suis le président de la Fédération de la Creuse de la Libre-Pensée. Je suis aussi le président de ce qu'on appelle le comité laïque des Amis du Monument aux Morts de Gensoux, qui est devenu le comité de Gensoux, c'est plus simple. Je suis aussi le maire de ma commune, qui est la commune de Lépinan, sur le territoire de la Creuse. Et par ailleurs, retraité.
D'accord. Et donc, nous approchons d'une date qui est très importante pour toi, le 11 novembre, puisque chaque année, le 11 novembre, la Fédération de la Creuse et le comité que tu présides sont les acteurs importants pour l'organisation d'un rassemblement. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire de ce rassemblement, depuis quand il existe et quelles sont ses principales caractéristiques?
D'abord, je vais parler de cette histoire et il me faut parler des militants qui ont travaillé avec moi il y a bientôt 40 ans à ce sujet. Je veux parler de René Debord, qui était un camarade de la Libre-Pensée de la Creuse. Je veux parler de Pierre Forestier, qui était un camarade de la Libre-Pensée de Limoges, de Jean-Louis Crouzevial, le Corrézien, et de Philippe Jeannot, mon camarade de 40 ans, militant sur la Creuse. C'est avec ces militants-là que tout ce travail sur Gensoux s'est construit. Bien sûr, moi j'y participais. Donc pourquoi ce rassemblement annuel à Gensoux? Parce que on a quand même affaire à un monument aux morts un peu exceptionnel. Moins rare que ce qu'on pensait au départ, puisque avec des investigations qui ont été faites par des camarades, on a découvert qu'il y en avait pas mal d'autres, mais lui, il est exceptionnel par sa simplicité, par sa nudité et par la force de son message. C'est-à-dire qu'il y a deux parties au monument de Gensoux. Il y a la statue de bronze représentant, on l'a appelé l'orphelin de Gensoux, en tenue d'écolier avec les sabots aux pieds, c'est-à-dire c'est l'enfant du peuple, qui est debout devant le monument et qui dresse son poing en direction de la liste des morts qui figure sur le monument. Bon, le poing levé, c'est quand même le signe de la révolte, le signe de la colère, le signe de la mobilisation. Et ensuite, il y a le monument dans sa partie granitique, avec la liste des morts, les jeunes hommes de la commune de Gensoux qui sont morts sur le front, et la formule inscrite en bandeau au milieu, « Maudite soit la guerre ». Alors, « Maudite soit la guerre », c'est bref, c'est explicite, c'est sans discussion possible, « Maudite soit la guerre », »,« Maudite soit toutes les guerres ». Voilà. Donc c'est quand même assez exceptionnel.
D'accord.
Donc c'est parce que nous, on voulait, pour la plupart, les camarades dont j'ai parlé, ce sont des libres penseurs. Les libres penseurs sont des pacifistes militants actifs. Et donc il nous semblait, on partait pas de rien quoi avec ça, on partait de quelque chose d'exceptionnel qui nous renvoyait à une guerre d'une brutalité exceptionnelle et avec ce message qui résumait tout quoi. Donc nous, on a voulu faire vivre ce message de Jules Couteau, qui était le maire de Gensoux à l'époque, maire SFIO, qui avait lui-même été à la guerre et qui avait été gazé et qui est revenu chez lui au pays très très diminué physiquement et qui a porté le projet de ce monument.
D'accord. Et je crois me souvenir qu'au sujet de la construction de ce monument, ça s'est fait dans des conditions un petit peu particulières. Il y a un aspect social dans la construction de ce monument, avec la souscription populaire qui a permis son élaboration.
Oui, oui, il y a eu une souscription, et puis il y a eu une élaboration un peu collective du projet. Il y a même une maquette à la mairie, une maquette en bois à la mairie, qui montre tout le travail qui a été fait en amont pour faire quelque chose qui convienne à tout le monde, à toute la population de Gensioux, sans faire de concession au militarisme ambiant.
D'accord. Et donc, un nom qui revient souvent quand on regarde un petit peu cette histoire de Gensioux, c'est celui de Félix Baudy. Peux-tu nous en parler un petit peu ?
C'est deux choses différentes. Donc, il y a le monument de Gensioux et il y a Félix Baudy. Félix Baudy, lui, c'est ce qu'on appelle un maçon creusois, qui est né à quelques kilomètres de Gensioux, à Saint-Pierre-Bellevue, et qui a grandi dans le secteur, et qui, à l'âge adulte, pratiquait les migrations saisonnières des maçons creusois. Beaucoup allaient sur Paris, lui allait sur Lyon. Et alors, il n'était pas qu'un maçon creusois, c'était aussi un militant syndical actif, ce qu'on appellerait un cadre intermédiaire du syndicalisme, toujours investi. Et d'ailleurs, on trouve trace de ça aux archives départementales de la Creuse, des petites notes, des rapports qui étaient adressés à la préfecture, où il apparaissait comme quelqu'un à surveiller, quoi. Et donc Félix Baudy, le maçon creusois syndicaliste, il a été mobilisé sur le front de très bonne heure, fin 1914, et il faisait partie d'un régiment qui a eu beaucoup à souffrir aussi, avec des grosses pertes. Et en avril 1915, avec tous les camarades du régiment, ils ont refusé d'obéir à un ordre qui exigeait d'eux qu'ils sortent de la tranchée pour monter à l'assaut de lignes allemandes dans des conditions épouvantables. Ça aurait été une énorme boucherie. Et donc eux, ils ont refusé de répondre à l'ordre qui leur était donné. Ils sont restés dans la tranchée. Alors ce qui est très drôle, c'est que ils sont pas restés dans la tranchée parce qu'ils avaient peur de mourir, etc. Ils sont restés dans la tranchée parce que c'était pas leur tour. Ils considéraient qu'ils avaient suffisamment donné et que c'était au suivant de passer devant eux. Et néanmoins, les autorités militaires se sont affolées et ont décidé très rapidement de sanctions exemplaires. Donc, officiellement, ils ont décidé d'un tirage au sort. Enfin, c'est quand même un tirage au sort qui a donné des résultats très surprenants, parce que pour 5 qui ont été tirés au sort, il y avait 2 militants du syndicat des maçons de Lyon qui ont été tirés au sort. Félix Baudy et un dénommé Prébaud, qui était aussi originaire de la région de Royères, de Saint-Martin-Château, à la limite de la Haute-Vienne. Donc, 2 militants du syndicat des maçons creusois, prétendument tirés au sort, on peut en douter quand même. Ils avaient été ciblés comme étant des meneurs potentiels, susceptibles de semer le trouble sur le front, et c'est pour ça qu'ils ont été tirés au sort. Donc après un procès comme ils pouvaient s'en faire sur le front, ils ont été condamnés à être exécutés, et ils ont été exécutés en avril, je ne me rappelle plus exactement la date, 1915. Et alors, Félix Baudy, ses camarades du syndicat de Lyon ne l'ont jamais abandonné. C'est-à-dire qu'après l'armistice de 1918, ils ont agi, notamment sur la base d'une souscription. Ils ont fait réaliser une plaque en marbre avec une série d'inscriptions particulièrement émouvantes. Et ils sont venus la mettre en place sur sa tombe à Royères, puisque Félix Baudy est inhumé au cimetière de Royères. Ils sont venus mettre cette plaque sur sa tombe. Et ça a fait l'objet d'une manifestation qui a regroupé 600 personnes à Royères. C'était assez exceptionnel, avec le délégué cantonal, avec les maires de toutes les communes environnantes, et puis une foule incroyable. Donc 600 personnes sont venues porter cette plaque pour dire que Félix n'était pas un traître, que Félix n'était pas un lâche, etc. etc. Et à partir de là, le syndicat des maçons de Lyon a engagé la bataille pour la réhabilitation de Félix Baudy. Et ils l'ont obtenu au début des années 30, ils ont obtenu sa réhabilitation. Et d'ailleurs, quand on regarde le monument aux morts de la commune de Royères, ce qui prouve que pour la population locale et pour les élus, Félix Baudy n'a jamais été considéré comme un traître, contrairement à tout ce qui était écrit, et parce que son nom figure gravé dans le granit exactement à la bonne place si on retient l'ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été rajouté, il a été mis à sa place avant même que la réhabilitation soit prononcée. C'est-à-dire que pour pour les gens de la commune, pour les élus de la commune, Félix Baudy n'a jamais été un traître ni un lâche, et il l'avait mis sur leur monument. Voilà. Donc Félix Baudy, c'est ça.
D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Régis, pour toutes ces précisions. Et rappelons simplement pour nos auditrices auditeurs que les communes de Royères et de Gensioux sont très proches l'une de l'autre.
Très proches, oui.
Voilà. Et que donc il y a des histoires qui s'entremêlent. C'est tout à fait intéressant. Et ce que tu viens de nous dire nous ramène à toute la question donc, du combat pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple.
Oui, c'est une bataille qui est menée déjà depuis plus de 20 ans. Et elle avait eu un temps fort justement à Gensioux en 2008, le 11 novembre 2008. Marc Blondel, qui était alors président de la Fédération nationale de la vie pensée, est venu à Gensioux. Ce qui a amené une forte mobilisation. Il y avait plus de 400 personnes autour du monument, quelque chose qui s'était peut-être jamais produit. Et là, Marc Blondel avait relancé la campagne pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, parce que les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui se sont succédés, ont toujours refusé de s'engager là-dedans. Parce que reconnaître que ces gens-là ont été fusillés sans raison ou pour une raison unique, celle de, comment dire, poursuivre la guerre indéfiniment en dépit du sentiment des gens. Et c'est vrai que la campagne pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple s'est poursuivie. Elle a failli aboutir, il doit y avoir 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus exactement les dates, sur la base d'un projet de loi qui avait été déposé par des élus de la France insoumise et qui avait été finalement voté à l'Assemblée nationale, mais qui ensuite, entre le Covid et les obstructions qui ont été faites par les représentants, comment dire, les représentants opposés à ce genre de réhabilitation, donc finalement ça n'a pas été validé par le Parlement. Mais la campagne se poursuit, la campagne va se poursuivre, et on ne peut pas renoncer à cette idée de la réhabilitation de toutes ces victimes innocentes. Quoi.
D'accord. Alors, nous sommes maintenant à moins de 15 jours du rassemblement de Gensioux pour l'année 2024. Peux-tu nous rappeler un petit peu donc, l'historique de ce rassemblement? Tu dis que ça fait une quarantaine d'années. Et quelle est la caractéristique particulière en cette année 2024? Quelle est l'importance particulière du rassemblement cette année?
Cette année, ce sera le 37e rassemblement. C'est une belle continuité. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se prévaloir de cette ténacité. Voilà, on lâche rien. Mais cette année, il suffit de regarder la télé ou de tourner le bouton de son poste de radio pour se rendre compte que de l'état du monde, la guerre est partout, et la guerre la plus horrible qui soit. On regarde ce qui se passe à Gaza, on nous dit que c'est une guerre, mais c'est pas une guerre, il n'y a qu'une armée. En face, il n'y a pas d'armée, il y a un peuple désarmé, affamé, écrasé sous les bombes. Les femmes, les enfants, j'ai vu des images hier, une petite fille de 7 ou 8 ans qui portait sa sœur sur son dos dans les ruines de Gaza pour la mener à l'hôpital. C'est effrayant. Et les morts du 7 octobre ne justifient pas les crimes qui sont commis aujourd'hui. Parce que l'on peut parler de crimes, même les autorités internationales de l'ONU parlent de génocide, parlent d'apartheid, parlent de colonialisme. C'est insupportable. Et tous ces gouvernements occidentaux qui balbutient quelques excuses, tout ça, mais qui continuent à soutenir l'État sioniste d'Israël, c'est écœurant. Franchement, c'est insupportable. On se demande comment c'est possible. Mais il ne faut pas oublier non plus que le Liban aujourd'hui maintenant est écrasé sous les bombes. Et on ne peut pas oublier non plus la guerre entre les soldats ukrainiens et les soldats russes. Et l'attitude là aussi de l'impérialisme, qu'il soit américain ou européen, dans une moindre mesure, qui sans arrêt lâche des armes sophistiquées pour maintenir le potentiel militaire de l'Ukraine, parce qu'il faut faire durer la guerre, parce qu'on a quand même bien un peu l'impression que c'est l'attaque de Poutine est saisie comme une opportunité pour régler des comptes, essayer d'asphyxier définitivement la Russie, de la mettre à genoux. Et après, en ce qui concerne les États-Unis, on sait bien que l'adversaire suivant, ce sera la Chine. Donc, le monde est dans un état catastrophique. la vente d'armes explose de partout. Des pays comme le Japon et comme l'Allemagne qui n'avaient plus de démarches bellicistes, qui s'armaient juste pour se défendre, ont complètement inversé leur doctrine militaire. Et maintenant, en ce qui concerne l'Allemagne, ils ont des budgets militaires colossaux et il s'agit aussi de préparer les guerres de demain. C'est un peu effrayant. En France, c'est exactement pareil avec l'explosion du budget militaire. Et puis aussi, en France, on s'illustre aussi avec une volonté d'endoctriner la jeunesse avec le fameux SNU, mais qui, finalement, je crois, se révèle comme un échec politique quand même.
Et surtout comme un gouffre financier.
Oui, gouffre financier et puis échec aussi, parce que la jeunesse se laisse pas abuser, je crois.
Oui.
L'état du monde justifie pleinement ce qu'on fait le 11 novembre à Jansiou.
Voilà. Alors, peut-être très rapidement, parce que vous n'aurez même pas assez d'une seule chronique pour en parler, mais notre commune est très proche de Jansiou, c'est la Courtine. Et là aussi, il y a des traces de l'histoire qui sont effectivement extrêmement importantes. Donc, alors, très très rapidement, parce que je crois qu'il nous reste que quelques minutes pour cette chronique. Donc, nous rappeler un petit peu ce qui rapproche en fait ces communes, Royères, Jansiou, La Courtine.
Oui, à La Courtine, indépendamment de notre volonté, en 1917, un contingent de soldats russes d'environ 11 000 hommes a été parqué dans le camp militaire de La Courtine parce que ces soldats refusaient de poursuivre les combats sur le front français. Alors ces soldats, en fait, c'était des soldats russes, ils avaient fait l'objet d'un échange. Le tsar échangeait des soldats contre des fusils, parce que lui-même, qui était en guerre, avait besoin d'armes, et donc il cédait des hommes contre des fusils. Ils ont été d'emblée propulsés dans les horreurs de la guerre de 14-18, ils ont eu de grosses pertes. En même temps, dans leur pays, il y avait la révolution qui était en train de se mettre en mouvement, avec la chute du tsar au printemps, la mise en place d'un gouvernement provisoire, mais qui en fait ne répondait pas à l'aspiration à la paix du peuple russe. Et donc cette révolution, elle poursuivait sa route. Et les soldats russes sur le front français, ils savaient tout ça parce qu'il y avait des journaux qui circulaient, des tracts qui circulaient. Et en fait, ils ne voulaient plus combattre sur le front français. Et ils l'ont fait savoir, ils ont refusé d'obéir à leurs officiers. Donc on les a envoyés à La Courtine avec l'idée de les mater. Et ça a été, on les a matés, entre guillemets, militairement. Mais sur le plan de leur volonté politique, ils n'ont jamais réussi à les mater, ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais repris les combats sur le front français. On les a embastillés à droite, à gauche, certains ont été envoyés au bagne en Algérie, d'autres étaient envoyés comme ouvriers agricoles. Voilà, ils n'ont jamais renoncé. Leur exigence était qu'on les renvoie en Russie, parce que eux, ils voulaient être avec leur famille, avec leurs camarades, dans cette fournaise révolutionnaire. C'est nous qui avons fait ressortir cette histoire de l'oubli. Nous avons sorti une première brochure à ce sujet en 1997. Et après, on a décidé qu'on allait financer une stèle au cimetière de La Courtine, avec l'autorisation du maire de La Courtine. Et on a fait une campagne financière, etc., etc. Et en septembre 2012, nous avons procédé à l'inauguration de cette stèle, toujours avec la participation de Marc Blondel et une foule de 300 à 400 personnes au cimetière. Voilà. Donc c'est vrai, ici en Creuse, nous avons Jansiou, nous avons Félix Boudy et nous avons les mutins de La Courtine. C'est assez exceptionnel.
Tout à fait, tout à fait. Alors, nous arrivons vers la fin de cette chronique. Peut-être souhaites-tu ajouter quelques mots par rapport au rassemblement donc, du 11 novembre 2024, dans lequel, bien évidemment, comme les années précédentes, le groupe Fred Zeller va se déplacer. Et donc, si tu as quelques éléments complémentaires à donner aux auditrices auditeurs, en 2-3 minutes, c'est tout à fait possible.
Le rassemblement, les prises de parole en ce qui concerne notre rassemblement, elle commencera à 11h30. Nous intervenons après la manifestation municipale. Il y aura beaucoup d'interventions encore cette année. Toutes les interventions traditionnelles, la Ligue des droits de l'homme, le mouvement de la paix, les organisations ouvrières, la CGT, Force ouvrière, l'Union pacifiste sera là aussi, de quelques anciens combattants, et puis quelqu'un qui viendra nous parler, un militant qui viendra nous parler du SNU justement. Donc après, on se retrouve pour un banquet. On se retrouve au village du Comté, du Compé plutôt, excusez-moi, sur la commune de Saint-Pierre-Bellevue. C'est à une dizaine de kilomètres de Jansiou, dans la direction de Bourganeuf.
Voilà, et en général, on organise un cortège de voitures pour rejoindre donc
voilà.
ce lieu.
Ceux qui veulent participer au banquet, je vous donne un numéro de téléphone, ils peuvent réserver au 06 73 46 23 99.
Ok. Et également, un de nos camarades de Périgueux assure la centralisation de ceux qui s'inscrivent pour le repas et transmettront les informations.
Je voudrais dire que nous avons un très beau site qui raconte toutes ces péripéties autour de Jansiou, autour de Félix Body, autour des Russes de la Courtine. Il faut taper « Amis du monument de Jansiou ». Et ça ouvre tout de suite le bon site. « Amis » au pluriel. www.amis-monument-jansiou-la-courtine.fr. Mais il suffit de taper « Amis du monument de Jansiou ».
D'accord. Et on mettra bien évidemment ce lien sur notre site. Alors, je te propose maintenant, puisque c'est un petit peu la tradition dans ces chroniques, hein, de nous faire part du choix musical que tu as fait pour illustrer cette chronique. Et on se retrouve après pour conclure cette chronique.
Choix musical que j'ai fait avec Joël, mon épouse.
Voilà. Et alors ?
C'est Bernard Lavilliers. C'est « Les Porteños sont fatigués ».
Fatigués les porteros, fatigués toujours de l'avoir dans l'os. Inflation, chômage et des promesses, pays du futur, mais rien ne presse. Traîne un peu les pieds dans l'inflation, qui bat des records, nous dit-on. Ils sont très lucides et cultivés, mais les porteros sont fatigués. Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés,
mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués.
Par les temps qui courent, investisseurs ne sont plus beaucoup à faire des fleurs. Et quand il n'y a plus rien à raqueter, il te reste tes yeux pour pleurer. Terminer les rêves d'argentine, c'est pour les poètes et pour la rime. Douloureux dollar les a usés, oui les porteños sont épuisés.
Alors Chabon, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés,
mais les porteños sont fatigués. Mais les porteños sont fatigués.
Alors chaman, n'oublie pas, ici on n'embrasse qu'une fois. Ils sont chaleureux, cultivés.
Les porteños sont fatigués, et les porteños sont fatigués.
Régis, nous venons d'écouter donc Bernard Lavilliers et il nous reste quelques instants pour conclure cette chronique. Quels sont tes derniers mots ?
Moi, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés à se joindre à nous le 11 novembre à Jansiou et puis à rejoindre le comité de Jansiou en adhérant.
Voilà. Et accessoirement, de participer au repas, au banquet fraternel, qui est toujours un excellent moment dans cette journée, avant de reprendre la route vers les lieux d'habitation de chacun. Merci beaucoup, Régis, pour cette interview. Et nous espérons, nous te verrons, bien sûr, le 11 novembre à Gensioux, et pour de prochains rendez-vous. Merci.
Merci.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30.